Libin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Je suis écrivain biographe pour aider les gens à aller mieux et à assurer la transmission de leur patrimoine familial. Ce patrimoine familial, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour le transmettre. On peut avoir 30 ans et avoir surmonté un drame, une épreuve terrible, qui demande une reconstruction, qui a été faite ou pas, qui peut être faite par justement le récit de vie. Et on a envie de témoigner à la fois de ce drame et de cette reconstruction. Pour soi avant tout, pour prendre du recul sur sa propre histoire, pour se reconstruire, pour mettre des mots sur ce qu'on a vécu, pour tourner la page, pour réassembler en fait son histoire, donner un sens global à tout ce qu'on a vécu et pouvoir aller de l'avant. Et ça, on veut le transmettre, parce qu'en fait, c'est très beau ce que les gens vivent. Qu'il y ait eu une épreuve ou non, qu'il y ait eu des voyages, ou qu'on soit resté chez soi toute sa vie, comme c'est parfois le cas avec mes narrateurs agriculteurs, il y a toujours un regard sur la vie extrêmement précieux. Et ce regard, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'éteigne, qu'il se perde avec l'âge ou avec le décès des gens. Et je pense qu'il est primordial de le transmettre, qu'il y ait eu ou non une guerre, une maladie, peu importe. Il y a un regard sur la vie, une forme de sagesse. Et c'est ça que j'essaye de recueillir et de transmettre. Avant même de transmettre des faits, des dates, des lieux, moi je suis là pour transmettre des émotions et des sensations et des regards. C'est un patrimoine humain qui est très important. Et aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. On est quand même à l'ère de l'image, des vidéos. Les gens sont exposés à un contenu très dense tous les jours. Et finalement, je pense que la jeune génération ne reçoit pas suffisamment de sagesse de ses aînés. Et dans ces livres que j'écris, il y a cette forme de sagesse que chacun est libre de retrouver au moment où il en a besoin. Quand on veut affronter une épreuve soi-même, il est bon de se dire « Tiens, dans ce livre-là, je peux peut-être trouver un élément de réponse ou une petite phrase qui va m'aider à surmonter tout ça. »
C'était Jennifer Vépierre, biographe basée à l'Opérec. Je l'ai rencontrée afin qu'elle me présente son métier atypique. La première question que je lui ai posée, c'était « Comment on en arrive à devenir biographe ?»
Comment est-ce que je suis devenue biographe ? En parcourant les petits villages du Finistère Sud, j'ai rencontré des personnes âgées avec lesquelles j'ai discuté simplement pour être aimable. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, je suis une ch'ti. Donc chez nous, c'est tout à fait naturel d'aller vers les gens et de prendre de leurs nouvelles, de faire connaissance. Ça l'était beaucoup moins dans le Cap-Sizun, où les gens sont assez méfiants par nature et ont tendance à se replier sur eux-mêmes lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui n'est pas natif de chez eux. Donc il a fallu gagner leur confiance. Et puis, je me suis rendu compte que ces personnes avaient besoin de parler, pas juste de la météo, mais vraiment de revenir sur leurs souvenirs, sur leur petite enfance, sur tout ce qu'ils avaient traversé. Et je me suis surtout rendu compte que ça leur faisait du bien. Quand je retournais les voir la fois suivante, ces personnes, elles allaient mieux. Ça se voyait à des détails, ça se voyait au papy qui se donnait un petit coup de peigne et à la mamie qui se donnait un petit coup de parfum. Voilà, ça se voyait à leur sourire et au petit gâteau qui m'attendait. On m'invitait à rester de plus en plus souvent. Et en parallèle de cela, moi, j'avais développé une activité de critique littéraire. Donc, j'avais repris la plume pour commenter de façon objective des œuvres littéraires de toutes sortes. Et à un moment donné, il y a eu ce mélange dans ma tête entre le récit des personnes âgées que je rencontrais et mon écriture. Et j'ai eu envie simplement de laisser une trace de ces belles rencontres. Donc, j'ai fait un essai qui n'avait pas vocation à devenir professionnelle. Et lorsque je l'ai montré à cette personne âgée, elle était éblouie, elle ne s'y attendait pas. Pour elle, c'était un honneur parce qu'elle n'avait pas suivi de grandes études. Donc de voir un petit bout de sa vie mis à l'écrit plutôt joliment, ça lui faisait très plaisir. Et elle l'a montré à sa famille. Et ils ont tous été extrêmement contents, en fait, d'avoir cette trace de la vie de leur ancêtre. Donc ça m'a simplement donné envie l'idée de continuer et de me professionnaliser.
Quel est le profil général de vos clients ?
Les thèmes abordés sont toujours différents. Non, il n'y a pas un type de personne ou un profil de personne qui vient à ma rencontre. Un tiers de ma clientèle aujourd'hui sont des personnes âgées, mais je travaille beaucoup également avec des personnes relativement jeunes, qui ont entre 20 et 33-35 ans, et qui souhaitent témoigner, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui souhaitent témoigner d'une reconstruction, ou qui souhaitent justement, par l'écriture, se reconstruire. On me contacte parfois dans le but de vivre, on va dire, une thérapie par l'écriture. Moi, je ne suis pas thérapeute. Les gens se soignent par eux-mêmes, en fait, à travers en livrant leur récit de vie. C'est-à-dire qu'ils me racontent leurs failles, leurs faiblesses, leurs épreuves. Et déjà, en se livrant comme ça, ils s'entendent le raconter. Donc déjà, il y a une prise de recul par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils donnent du sens. Ils se rendent compte, en fait, en le racontant, qu'il y a un sens derrière tout ça, autre que leurs blessures. Et ensuite, moi, je le mets à l'écrit. Et en faisant cela, je donne un sens encore plus profond. Je vais construire leur vie. Parce que le récit de vie, à la fin, c'est quelque chose de propre, de construit, de travaillé. Pas forcément quelque chose de littéraire, mais quand on se raconte, on passe du coq à l'âne, à l'écrit, il y a une construction. Il y a un fil conducteur. Et lorsque les gens, du coup, se relisent, ils se rendent compte de ça. Ils se disent que finalement, tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, enduré et surmonté, ça avait un sens. Et ils s'approprient ce sens, ils se réapproprient leur histoire et ça leur permet de continuer. Ça, généralement, ce sont des personnes jeunes. Il y a des personnes qui me contactent à l'aube de la cinquantaine, de la soixantaine. Ce sont des personnes qui veulent changer de vie, ou qui viennent de le faire, ou qui s'apprêtent à le faire. Ça peut être un divorce, une reconversion professionnelle. Ça peut être juste après le départ des enfants. Et voilà, elles ont envie de me raconter la première moitié de leur vie, parce qu'elles se rendent compte qu'elles en sont à la moitié. Aujourd'hui, on est principalement centenaire. Donc, ces personnes qui ont 50, 55 ans se disent, bah voilà, j'ai vécu la moitié de ma vie. Et elles vont me la raconter pour mieux appréhender la seconde partie de leur histoire. C'est pas dans le but de mettre un point, de dire que c'est la fin. C'est dans le but de mieux tourner la page pour écrire un nouveau chapitre de leur existence. Bien sûr, il y a les personnes âgées qui ont toute une vie à transmettre, tout un patrimoine. Il y a aussi les chefs d'entreprise, les gens qui ont créé leur entreprise et qui vont la léguer à leurs enfants ou même à d'autres personnes. C'est difficile de léguer ce qu'on a créé. On a consacré toute sa vie à une entreprise et puis du jour au lendemain, on prend sa retraite et on la lègue à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on lègue exactement ? Au-delà d'un capital, d'un fonds, des murs, il y a une histoire. Et cette histoire de la création d'une entreprise, ils vont me la transmettre. Pour que moi je la raconte, avec des documents à l'appui. Bien sûr, les photographies et documents peuvent faire partie de l'ouvrage, c'est même très agréable. Et on laisse ainsi une trace de ce qui a été créé par une personne.
Comme vous venez de l'entendre, être biographe, c'est avant tout être humain en côtoyant d'autres humains. Mais pour faire ressortir le « vous » sur papier, cela demande une sacrée organisation. Mais avant de vous passer de nouveau Jennifer Vépierre, écoutons d'abord Camille et sa chanson « Mon petit vieux » qui nous exprime les perles de sagesse que nos aînés peuvent nous apporter.
C'est lui sur le banc de square, c'est mon ami, mon amoureux. Et ça fait rire les pigeons parce que c'est un petit vieux. Nos rendez-vous, c'est pas comme dans les films, je cours vers lui. Un jour, il m'a même dit, tu es la femme du reste de ma vie. Les gens croient qu'ils ne me touchent pas, mais ils me touchent, mon petit vieux. C'est beau, c'est rire autour des yeux. Des fois, bar, une bière, à perdre, alors que moi, je n'ai rien vu. Les gens croient qu'ils ne me touchent pas, mais ils me touchent, mon petit vieux. C'est pour ces rides autour des yeux.
Une journée typique d'un biographe, ça se résume à quoi ?
Alors, il n'y a pas de journée typique, mais il y a des semaines typiques. Mais il n'y a pas deux journées qui se ressemblent pour l'écrivain biographe. Le matin, déjà, je dois consulter mes emails. J'ai toujours une trentaine de courriels en attente. Donc, il faut se consacrer à cette lecture, parfois y répondre, parfois repousser la réponse à la fin de semaine parce que ça prend plusieurs heures. Il y a toujours des coups de téléphone aussi intempestifs tout au long de la journée. J'essaie d'organiser mon planning pour faire au moins deux longues sessions d'écriture par jour. Une au matin qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, et une l'après-midi qui va durer environ 3 heures. C'est déjà beaucoup. Écrire pour les autres pendant 5 heures, ça demande énormément d'énergie et de concentration. Lorsque la fin de journée arrive, il faut encore répondre aux prospects, parce que j'ai régulièrement des demandes de personnes qui sont intéressées, et à chaque fois c'est pareil. Soit ils connaissent mal le métier, ils ne connaissent pas le fonctionnement, les modalités de réalisation, le tarif, le temps que ça va prendre. Donc il faut répondre à toutes ces demandes. Il y a la comptabilité à gérer, parce que voilà, je suis auto-entrepreneur, donc je gère aussi bien mon cœur de métier que le secrétariat, la comptabilité. Voilà, il faut calculer le temps que je passe, éditer les factures, demander les paiements, réclamer les paiements également. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Il y a certains jours où je me déplace chez les clients pour mener les entretiens biographiques. Donc il y a le temps de route à prendre en compte. Ce temps de route, il n'est pas payé. Il y a le temps que je passe sur place. Il faut encore rentrer et se restaurer. Il faut prendre un petit peu de temps pour soi quand on peut. Les journées sont longues. Je débute mon travail à 9h le matin et je me couche vers minuit. Donc parfois plus. Donc ce sont de très très longues journées et je n'ai jamais assez de temps pour tout faire. Donc je suis toujours un petit peu en retard sur mon travail parce que je suis perfectionniste. Donc faire ne suffit pas, je veux bien faire. Et pour bien faire les choses, il faut prendre beaucoup de temps. Lorsque je termine une biographie, une fois que le point final est posé, je ne m'arrête pas là. Il va y avoir encore au moins 3 relectures intégrales qui vont nécessiter des modifications du texte. La mise en page, lorsque je l'ai réalisée, c'est pareil. Je vais attendre 2-3 mois pour avoir un regard neuf et je vais la regarder à nouveau et la parfaire. Voilà, j'essaie toujours d'aller au plus loin de ce que je sais faire, de me dépasser, et ça, ça prend beaucoup de temps.
Comment se passe le processus de création ?
Donc il y a toujours un premier entretien qui est gratuit, c'est une rencontre. Où là, on ne travaille pas, on se rencontre, on voit si on se sent bien l'un avec l'autre. Est-ce qu'on peut se faire confiance ? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux pendant une heure sans crainte, sans se sentir jugé, en étant à l'aise, en étant bien ? Parce que le biographe, c'est le confident. Donc il faut se sentir à l'aise avec cette personne, il faut être capable de lui raconter tous les détails de sa vie. Bien souvent, les gens me confient des secrets que je ne vais pas écrire, parce que c'est pareil, je ne suis pas obligée de tout écrire. Je suis là avant tout pour écouter. Donc il faut que les gens se sentent bien en ma présence, et moi, il faut également que je sois capable de me sentir bien avec les gens, parce que je ne pourrais pas les accompagner si je suis mal à l'aise avec eux. Donc cette première rencontre, elle est extrêmement importante pour tous les deux. L'écriture d'un récit de vie, c'est une aventure collaborative, c'est un travail d'équipe. C'est deux personnes qui se prennent par la main. Il n'y a pas de relation hiérarchique. Moi, je ne suis pas supérieure aux gens parce que je suis écrivain et eux ne sont pas supérieurs à moi parce qu'ils me paient. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, toutes mes relations sont basées sur la confiance et le respect. Donc c'est important également de profiter de ce premier entretien pour parler des valeurs sur lesquelles va se baser mon travail d'écriture. Ensuite, il va y avoir une moyenne de 5 entretiens biographiques, chacun d'une durée de 2 heures. Parce qu'il faut en moyenne 10 à 12 heures pour se raconter. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus en fonction de la richesse de sa vie, du nombre de rencontres et d'événements qui ont jalonné une existence. Généralement, un entretien biographique dure 2 heures, mais il peut durer moins si la personne est fatiguée ou malade. Il peut également durer plus longtemps. Il m'arrive parfois de rassembler tous les entretiens sur 2 jours, notamment lorsque la personne va raconter quelque chose de très difficile. Parce que quand on se raconte, on revit les événements. Très vite, la mémoire nous entraîne dans les souvenirs, avec les images, les sons, les odeurs. Ça peut être quelque chose d'éprouvant. Dans tous les cas, ce n'est pas anodin de se raconter. C'est un choix qui doit être mûrement réfléchi. On ne fait pas ça à la légère. Moi, je suis là pour accompagner les gens du début à la fin, y compris dans les moments de faiblesse, de fatigue. Dans les émotions, je les vis en même temps qu'eux. On rit et on pleure ensemble lors de l'entretien biographique. Ensuite, il y a le moment de la transcription, où je vais réécouter tout ce que j'ai enregistré, car lorsque je suis en entretien biographique, j'enregistre ce que les gens me disent. Je ne gratte pas le papier, parce que je veux rester présente à la conversation. Je suis dans l'écoute active. Donc vient le moment de la transcription, où je vais remettre à l'écrit tout ce qui m'a été dit. Là, il y a très peu de transformation. On passe de l'oral à l'écrit, mais on est quand même très proche du mot à mot. L'objectif, c'est de tout conserver, y compris les silences, les larmes, les sourires, les sous-entendus. Parce que dans mon écriture, je vais vraiment être dans les émotions. Donc il faut que je conserve tout ça. Au terme des transcriptions, je vais réorganiser le récit et lui donner un sens qui va être unique. Je vais dégager un fil conducteur d'après mes ressentis et je vais le proposer au narrateur. Donc ça peut être bien sûr une construction chronologique, thématique, antéchronologique, mais ça peut être aussi tout autre chose en fonction du récit de vie et des attentes de la personne que j'ai en face de moi. Vient ensuite le moment de la réécriture, que je fais au moins 3 fois. La première réécriture me permet, on va dire, de débroussailler le texte, de lui donner une force littéraire, une structure, de lui permettre de se tenir, en fait, le rendre vivant, agréable à lire. La deuxième réécriture va me permettre de me rapprocher vraiment de la personne pour qui j'écris. Parce que écrire une biographie, c'est un peu comme au théâtre. Je mets le costume d'un personnage, j'entre dans sa peau. Et quand j'écris, il y a toujours ce moment où je deviens l'autre, vraiment, dans mes tripes. Et ce moment où je deviens l'autre, ça me permet justement de faire en sorte que les mots, les phrases que j'écris ressemblent à la personne. On n'est pas dans l'oralité, mais il y a un morceau de l'âme de la personne qui doit transparaître à la lecture. J'aime à dire qu'avant même de comprendre ce qui est écrit, les gens, les lecteurs, doivent entendre la voix de la personne. Elle doit traverser les pages, elle doit traverser le temps. La troisième réécriture me permet de corriger ce que j'ai écrit, de lisser l'ensemble et de faire que du début à la fin, on ait bien le même style, la même tonalité. C'est pour ça aussi que chaque livre est unique. Je n'écris pas 2 livres de la même façon. Et moi, j'essaye le plus possible de disparaître à l'écriture. Ma plume doit être la plus invisible, la plus transparente possible. Et si on me retrouve, c'est à travers la sensibilité et l'émotion que je vais mettre à l'écriture. Mais la personne qu'on doit entendre et qu'on doit lire, ce n'est pas moi. Ce sont toujours les narrateurs pour qui j'écris. Au cours de la réécriture, je vais montrer mon travail en plusieurs fois au narrateur, qui est libre de me demander des changements. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut gommer, effacer, recommencer, il n'y a pas de problème. Une fois que la personne est satisfaite de son récit de vie, je vais attaquer la mise en page. Là, je vais proposer différents formats de livres, différents papiers qui ont un grammage, une couleur, une épaisseur, une texture différente, une matière différente. Par exemple, pour un monsieur qui habite à La Réunion, j'ai trouvé un papier fabriqué à partir de cacao, ce qui permet de donner à son récit de vie la couleur même de sa peau. On va concevoir la couverture ensemble, je vais faire des propositions de titres, des propositions d'illustrations. C'est un travail qui est artistique jusqu'à la fin. On est vraiment dans la création et la création sur mesure. Tout le livre, même la tranche, même la couverture, tout doit refléter la personne. Et puis ensuite, j'aime bien laisser reposer le manuscrit 3 mois environ, ce qui me permet ensuite de le reprendre avec un regard neuf pour éliminer les coquilles. Parce que lorsqu'on corrige un texte qu'on a écrit soi-même, bien souvent, on n'est pas capable de déceler les coquilles au premier coup d'œil, parce que le cerveau anticipe ce qu'il a écrit. Donc je laisse reposer le manuscrit. Lorsque je le reprends, je l'ai en partie oublié, ce qui me permet d'avoir un regard un peu plus objectif et de procéder à d'ultimes modifications dans le but d'atteindre le plus possible la perfection.
Et où faites-vous imprimer les écrits ?
Alors, je travaille avec Westelio, qui est un imprimeur à Brest. J'ai travaillé avec d'autres imprimeurs, mais j'aime vraiment leur équipe. Ils sont très professionnels et ils sont capables de corriger leurs erreurs lorsqu'ils en font, ce qui est le plus important à mes yeux. J'accompagne les gens jusqu'au bout, c'est-à-dire que même dans le choix du papier, je suis là. Donc je dispose moi-même d'échantillons de plein de papiers différents que j'ai demandé directement aux fabricants de papier. Et je me présente chez les gens avec une valise qui est remplie d'échantillons. Je m'occupe de tout, je fais l'intermédiaire avec l'imprimeur, ça je le fais gratuitement à la fin de mon travail, parce que je ne vais pas donner aux gens un manuscrit sur clé USB et leur dire « débrouillez-vous ». Les gens n'y connaissent rien en impression. Donc c'est moi qui fais l'intermédiaire avec l'imprimeur. Donc je dis à l'imprimeur que je souhaite un ou plusieurs devis pour tel nombre de pages, avec des pages en noir et blanc, des pages en couleur, telle qualité de papier et tel nombre d'exemplaires imprimés. L'imprimeur me transmet des devis que je soumets à mes clients en leur expliquant bien en détail de quoi il s'agit. Ils choisissent ce qui leur semble le plus approprié en termes de prix par rapport à leur budget. Et puis ensuite, l'imprimeur va imprimer, va fabriquer le livre, il va le façonner. Moi, mon travail s'arrête juste avant l'impression. Mais bien souvent, je me déplace à Brest tout de même pour vérifier le résultat. Lorsque je reçois les livres à la maison, je les vérifie un par un. Ça prend beaucoup de temps, mais une erreur est vite arrivée. Une erreur de montage, par exemple, ou une bavure à l'impression, une mauvaise colorimétrie. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vérifier les livres un par un avant de les apporter aux clients.
Ribine, c'est terminé pour aujourd'hui. La biographie n'a maintenant plus aucun secret pour vous, du moins en théorie. en espérant vous retrouver bientôt sur de nouveaux Ribines. Kenavo.